BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Nouvelle phase de déconfinement cette semaine. Depuis mercredi, on peut retourner au bureau. Oui, mais est-ce que vous avez envie? Ça, c'est une toute autre affaire. On en parle dans un instant avec Caroline Morisseau, journaliste à BFM Business. Focus sur la stratégie RH d'Adecco. L'intérim évolue. Dans quel sens? Ça sera ce que va nous expliquer sa DRH dans un instant. Elle s'appelle Leslie Déhan. Et puis, on va parler recrutement et discrimination. Le sentiment de discrimination de la part des candidats a doublé ces 20 dernières années. Pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a un écart entre le sentiment et les faits? C'est ce que va nous expliquer Gonzague Lefebvre. Il est cofondateur de Cleaver Connect. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.
Nouvelle phase de déconfinement cette semaine, puisqu'à partir de mercredi 9 juin, tout change dans les entreprises. Alors on change aussi l'organisation d'Happy Boulot le Mag. On est avec Caroline Morisseau. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste à BFM Business. Vous suivez le quotidien des entreprises. Le 100% télétravail s'est terminé depuis mercredi. Quelle est la règle?
Alors désormais, en fait, le gouvernement a décidé de redonner la main aux employeurs. Donc c'est aux employeurs de déterminer un jour minimal de télétravail par semaine. Ça peut être un jour, deux jours, trois jours. Le gouvernement précise simplement que tout ça doit se faire dans la concertation avec les syndicats et que ça doit se faire de façon progressive. L'objectif, l'état d'esprit de ce nouveau protocole, c'est pas de faire revenir tout le monde au bureau du jour au lendemain. Et le gouvernement donne d'ailleurs l'exemple, puisque en ce qui concerne les fonctionnaires, lui a décidé que les fonctionnaires resterait 3 jours en télétravail jusqu'à fin juin et puis ensuite ce sera 2 jours en juillet, en août avant un retour à la normale, en gros à la rentrée de septembre.
Oui, parce qu'en gros dans les entreprises il va pas se passer grand chose là cette semaine, c'est septembre véritablement qui se joue. Et alors qu'on disait que les télétravailleurs en pouvaient plus, en avaient marre, que tout le monde voulait retourner au bureau, alors là je sais pas si c'est l'été mais j'ai l'impression que personne veut y aller.
Exactement, en fait ce que nous disent les organisations patronales et les employeurs en général, c'est que la situation s'est complètement inversée. Il y a encore quelques semaines en fait ils se battaient face à des salariés qui effectivement n'en pouvaient plus du télétravail et voulaient à tout prix revenir au bureau. Dans certaines entreprises, ils sont allés jusqu'à désactiver les badges pour que les salariés ne viennent pas au bureau.
Carrément.
Et là, ouais, c'est tout l'inverse en fait. Ils se battent pour faire revenir leurs salariés au bureau. On sent que l'inquiétude monte vraiment chez les chefs d'entreprise. Ils nous disent que plus l'échéance approche, plus ils sentent que leurs salariés traînent des pieds, plus ils sentent qu'ils ont pris goût au télétravail. Certains ont même complètement réorganisé leur vie parfois en province, et ils se demandent à quel point leurs salariés vont vraiment revenir au bureau. Et les chiffres leur donnent raison, puisque selon un sondage OpinionWay, 74% des salariés qui ont télétravaillé, donc un quart en gros, des salariés qui ont télétravaillé, disent qu'ils ne veulent pas reprendre leur vie d'avant, pas revenir au bureau comme avant, c'est-à-dire en tout cas pas à 100% de leur temps de travail. Ils ne viendront pas tous les jours au bureau comme avant, il faut vraiment pression sur les entreprises pour continuer à télétravailler.
Il y a quand même des accords qui se négocient. Pour l'instant, on en est où?
Alors, on a eu 1600 accords depuis le début de la crise, sur la fin de l'année dernière, et puis 500 à peu près accords cette année. On est un peu plus de 1600 accords aujourd'hui, mais globalement, on se rend compte que les accords, ils ont été signés dans les grands groupes qui avaient déjà une culture de télétravail, qui voient le télétravail comme une opportunité parce que ça représente de formidables économies en termes de mètres carrés. C'est beaucoup plus compliqué dans les petites entreprises.
Qu'est-ce qui coince?
Alors, qu'est-ce qui coince? C'est pas tellement le temps de télétravail, parce qu'il y a énormément de flexibilité, il y a plein de formules possibles. Une entreprise qui veut pas pousser à fond le curseur du télétravail peut très bien fixer un quota annuel, par exemple, de jours de télétravail pour que le manager garde la main et puis gérer le télétravail de ses salariés. Les points durs, vraiment, c'est d'abord de déterminer dans l'entreprise qui peut ou non télétravailler. C'est pas simple, en fait, de savoir qui peut ou non télétravailler. Et il y a des vrais débats entre les syndicats et les employeurs sur ce sujet-là, et c'est un sujet qui peut créer des tensions dans l'entreprise. Et puis l'autre point vraiment compliqué, c'est la question des frais. Les syndicats se heurtent à un mur du côté des directions qui ne veulent rien lâcher sur les frais accordés aux télétravailleurs. Chez PSA, par exemple, où il y a eu un accord sur le télétravail, les syndicats ont obtenu seulement 10 euros bruts de primes mensuelles.
Pour financer tout, le bureau, la
pas l'ordinateur,
il y a
en plus
une aide au financement sur l'achat d'un siège ergonomique, d'un ordinateur, etc. Mais vraiment, sur tout ce qui est censé compenser les frais d'électricité, de chauffage dans votre appartement, votre nourriture, etc., ils ont obtenu seulement 10 euros bruts mensuels, quel que soit le temps de télétravail des salariés, y compris pour des salariés qui vont travailler de chez eux jusqu'à 3 semaines par mois. Donc c'est très peu, ça c'est un vrai sujet de tension dans les négociations.
Tension, donc conflit à venir.
Donc conflit à venir. Là, les syndicats, en l'occurrence par exemple chez PSA, n'ont signé cet accord que parce qu'ils prévoient une clause de revoyure en octobre prochain. Ils comptent revenir à la charge sur le sujet des frais au mois d'octobre. Et globalement, c'est un sujet dans toutes les entreprises qui négocient des accords télétravail.
Donc le vrai sujet, c'est septembre. Là, on est en période de test.
C'est ça, on est en période de pré-rentrée en fait. Tous les DRH, les avocats en droit, ouais, c'est ça, nous disent que les entreprises vont vraiment y aller très progressivement, respecter la consigne du gouvernement. On va être sur des formules en général. La plupart des consignes qu'on voit là, qui sont données par les entreprises, c'est d'abord 2 jours de télétravail possible en juin. Après, ça va devenir 2 jours obligatoires au bureau, puis 3 jours obligatoires en août. Et ce sera en septembre que ce sera vraiment l'heure de vérité, qu'on se rendra compte finalement à quel point le télétravail a percé dans la société, à quel point les entreprises sont prêtes à continuer à faire télétravailler leurs salariés.
Merci beaucoup Caroline Morisseau, on se revoit en septembre alors pour faire un point après la pré-rentrée. C'est la rentrée. On va voir comment ça se passe nous chez Adecco et faire un point recrutement.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Leslie Dehan, DRH France d'Adecco. Bonjour, merci d'être avec nous. Adecco, groupe suisse, leader mondial du travail temporaire. La France, c'est le plus gros marché d'Adecco. 900 agences d'emploi, 4000 collaborateurs permanents, 120 000 intérimaires en mission dans 31 000 entreprises clientes. On parlait il y a quelques instants, Leslie, du retour au travail, semaine de déconfinement, puis protocole nouveau dans les entreprises. Est-ce que chez vous aussi, on traîne des pieds pour retourner au bureau?
Alors, bonjour à tous. Alors, il faut savoir que nous avons quand même une petite particularité, notamment pour l'activité d'intérim, puisque hormis le premier confinement, où là, effectivement, tout le monde est resté à la maison, nous avons été ensuite mis dans les commerces essentiels. Donc, la plupart de nos collaborateurs sont tout de même venus travailler, même si c'était partiellement en distanciel. On peut avoir potentiellement quelques personnes qui seraient réticentes à revenir, mais nous avons mis tout en place déjà pour pérenniser le télétravail. Nous avons fait dès l'automne des sessions de travail avec nos collaborateurs pour comprendre finalement quels étaient leurs souhaits. Il a été clair que le télétravail était un mode qui était plébiscité et on a travaillé par la suite avec nos partenaires sociaux pour pouvoir mettre en place des chartes et des accords tout de suite après l'état d'urgence. Donc ça y est, c'est en place, on peut les appliquer.
C'est pas un nouveau monde total depuis le mercredi 9 juin, il n'y a pas un changement brutal chez vous?
Non, exactement.
Adecco, c'est une sorte d'indicateur de l'état de l'emploi, vu votre activité dans notre pays. L'année 2020 a été difficile, 98 millions d'euros contre un résultat net de 727 millions d'euros un an plus tôt. Il y a une reprise au quatrième trimestre déjà. Comment ça se passe sur ce début d'année? Vous ressentez un changement? Bruno Le Maire nous dit que ça va mieux. C'est exactement ce que vous ressentez chez vous?
Oui, on voit également qu'il y a un rebond et il est vrai que les secteurs ont été quand même impactés différemment. Là, on sent le rebond, notamment l'hôtellerie, restauration et bientôt le tourisme, mais clairement un rebond effectivement ressenti depuis quelques mois.
Vous gérez-vous les ressources humaines dans un groupe de ressources humaines? Est-ce que vous êtes comme dans tous les autres métiers, c'est les cordonniers les plus mal chaussés? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique du coup dans votre métier?
D'abord, on gère les RH de la même façon pour les salariés, qu'ils s'occupent de l'emploi des autres ou qu'ils fassent toute autre activité. L'important, c'est d'avoir la même conviction que là on a pour nos clients, nos candidats. Donc, pas forcément de spécificité dans la gestion des ressources humaines. On souhaite développer le capital humain. C'est vraiment un axe fort et stratégique de l'entreprise et ça s'applique bien évidemment à nos collaborateurs. Donc ça passe par finalement des voies, je dirais, assez classiques. La formation, pour commencer. C'est vrai que voilà, on forme plus de 85% de nos collaborateurs chaque année. C'est de la mobilité interne, hein. C'est là aussi une des façons de mettre une nouvelle corde à son arc. Et on a beaucoup poussé la mobilité, notamment l'année dernière, avec, comme je vous le disais, des disparités dans les secteurs, ce qui fait qu'on avait des opportunités clairement quand d'autres secteurs étaient un peu en ralentissement. Et donc, on a beaucoup poussé la mobilité interne avec des mesures exceptionnelles, hein, pour pousser nos collaborateurs à changer, des détachements temporaires, horaires, des primes exceptionnelles, des remboursements de frais kilométriques pour vraiment inciter. Et on a eu plus de 100 détachements temporaires dans ce contexte-là. Et de manière générale, c'est 40% des postes pourvus par la mobilité interne. Donc ça, c'est un axe, je dirais, peut-être un peu classique, mais voilà. Et puis, peut-être un élément différenciant qui est notre culture managériale qui repose sur 4 grands thèmes. Inspirer, faciliter, encourager et développer, qui vraiment est une culture qui favorise l'épanouissement des collaborateurs et leur développement. Voilà quelques exemples.
Mais qu'est-ce que ça a de particulier? Parce que j'ai envie de vous dire, inspirer, enfin, vos 4 points, toutes les entreprises vont me dire la même chose. Qu'est-ce que ça change spécifiquement chez vous? Vous êtes un groupe d'intérim, de gens. Vous avez bien sûr des collaborateurs permanents, mais il y a ceux qui passent, qui changent de secteur. C'est très particulier, l'intérim. Qu'est-ce que ça a de spécifique chez vous?
Après, moi, je suis la DRH des salariés qui travaillent effectivement à la mise à l'emploi de nos intérimaires. C'est pour ça que je vous parle plutôt de ce qu'on fait en interne. Alors, ça peut vous sembler quelque chose d'assez classique, mais ça reste quelque chose qui est important dans le cadre d'une entreprise que d'avoir des rituels managériaux qui répondent à ces 4 grands thèmes. En tout cas, c'est depuis plusieurs années un impératif dans notre entreprise qui est vraiment ancré. Ça fait partie de nos racines aujourd'hui.
Vous faites partie du dispositif Un jeune, une solution lancé par le gouvernement. C'est le grand plan pour tenter de redynamiser l'emploi des jeunes. Votre objectif de recrutement, c'est quoi ?
Alors, dans le cadre de ce dispositif, dont nous sommes, comme vous le dites, partenaires, nous avons un objectif de 5200 jeunes de moins de 26 ans d'ici la fin de l'année.
Un jeune de moins de 26 ans, il n'est pas très formé, il est vraiment en tout début de carrière. Qu'est-ce que vous avez à lui offrir comme perspective ?
Alors d'abord, nous investissons beaucoup sur l'apprentissage et l'alternance. Hein. C'est à peu près 37% de notre budget de formation. Donc ça fait partie de notre ADN que de former les jeunes. Nous avons d'ailleurs des CFA maison. Donc on offre une carrière et un apprentissage.
Alors sur les jeunes, vous aviez une initiative qu'on a pas mal suivie à BFM Business les autres années, qui est CEO for One Month. Il y avait un jeune qui suivait, qui prenait la place du CEO pendant un mois. Vous suivez toujours cette initiative. Vous avez reçu 20 000 candidatures. C'est-à-dire que c'est énorme.
Oui, un bel engouement depuis 7 ans d'existence. Je crois que nous avons battu le record cette année et effectivement, on vient juste de terminer. Et notre CEO d'un mois a démarré pour son mois. Donc, elle est avec nous, elle s'appelle Célia Amour. Donc, effectivement, un bel engouement parce que c'est un véritable tremplin, en fait, pour les jeunes. On a d'ailleurs intégré plusieurs talents, soit finalistes, soit
gagnants. Vous les avez gardés après, vos CEO for
oui.
One Month?
Oui, on est. Ah bah oui, bien sûr, on essaie de les garder.
Mais alors là, celle que vous avez sélectionnée pour cette année, pourquoi elle? C'était sur quels critères?
Alors sur les 20 000, c'est un long parcours. Oui, non, mais c'est un long parcours et on est voilà, il y a un principe de jury à la fois interne mais aussi avec un panel de clients. Donc ça, c'est un parcours en lui-même avec plusieurs interviews et interventions des candidats. Hein, donc avec une sélection qui se passe évidemment en entonnoir jusqu'au top 10 où il y a effectivement là les membres du comité de direction qui font un premier fil pour le top 5 et puis un dernier panel avec le président et des clients pour choisir le ou la lauréate ou lauréat.
Et alors le CEO qui est comme ça remplacé par ce jeune, lui, il est toujours content de faire cet exercice? Il n'en a pas marre d'être suivi par un jeune qui doit lui poser plein de questions?
Non, après ça reste un mois déjà, c'est pas toute
ça
une année. Non, Donc encore une fois, c'est vraiment dans l'ADN du groupe que de transmettre et de faire monter en compétences. Donc non, il en a pas marre, il en est très heureux. C'est aussi un regard différent, encore une fois, d'une personne qui est jeune, qui est aussi externe à l'entreprise. Donc c'est extrêmement riche.
Sur la question de l'insertion et de l'emploi handicapé, on en parle de plus en plus avec les DRH que je reçois ici. Il commence à y avoir un mouvement, je trouve, sur cette question-là. Vous aussi, vous avez pris des engagements. Vous avez reçu la ministre chargée du dossier il y a peu de temps. Vous trouvez aussi, vous aussi, que c'est plus simple aujourd'hui qu'il y a dans les entreprises. Alors, je sais que vous êtes la DRH en interne, vous ne vous occupez pas des intérimaires, mais qu'il y a au sein des entreprises qui sont vos clientes une prise de conscience de l'intérêt d'avoir dans leurs équipes des personnes qui sont atteintes de handicap.
Oui, complètement en phase sur cette prise de conscience. Donc, je ne dirais pas que c'est plus facile parce que ça reste des recrutements qui peuvent être compliqués. Hein. Je sais que typiquement, nous avons mis en place des opérations spéciales pour pouvoir notamment recruter sans CV, parce que une des difficultés qu'on rencontre avec les personnes en situation de handicap, c'est qu'elles n'osent pas, elles s'auto-censurent. Et donc, il faut aller les chercher, il faut recruter différemment. Donc, nous, on a monté une opération spécifique sur l'alternance inclusive avec notre cabinet spécialisé Humando Pluriel, qui va justement chercher les candidats sans CV et sur une base plutôt de leurs valeurs, leurs aptitudes, leurs motivations, parce qu'encore une fois, sinon, on ne les trouve pas. Mais je vous rejoins, il y a une vraie prise de conscience et les entreprises ont vraiment envie de progresser dans ce domaine.
Ça veut dire que désormais, vous dites qu'il faut aller les chercher, il faut être proactif, il faut décider vraiment que c'est un plus pour l'entreprise et s'investir.
Tout à fait.
1000 personnes issues de 1000 personnes handicapées, vous allez recruter cette année. Vous, à titre personnel, en tant que DRH, vous êtes active sur LinkedIn ou pas? C'est ma question à tous les DRH, je suis obsédée par LinkedIn.
Oui, je le suis.
Vous répondez, ça vous sert de sourcing?
Je ne suis pas trop sollicitée, notamment pour les demandes de recrutement. J'ai vu que les candidats sont peut-être... Non, pas vraiment, réellement. C'est plutôt des réactions du réseau LinkedIn sur les posts que l'on peut évidemment mettre, mais assez peu de sollicitations en direct.
Ah, bah écoutez, ça vient peut-être de changer. Alors après cette émission, vous allez peut-être recevoir des sollicitations en direct parce que c'est ce que reçoivent les DRH. Merci beaucoup Leslie Déhan d'avoir été avec nous, DRH France d'Adecco. Et on va continuer à parler du marché du travail, bien sûr, et on va parler recrutement ensemble.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Better Together.
Et on va parler discrimination à l'embauche. On est avec Gonzague Lefebvre. Bonjour, vous êtes cofondateur de Cleaver Connect qui appartient à Météo Job. Météo Job, c'est un site de recherche d'emploi. Vous faites régulièrement un observatoire sur les discriminations à l'embauche avec l'IFOP. Vous avez interrogé 4000 salariés. Et quand on regarde les enseignements de cette étude, on a l'impression que le sentiment de discrimination augmente. Il a même presque doublé en 20 ans. 12% en 2001, 21% en 2021 de gens qui se sentent discriminés au moment de l'embauche. Qu'est-ce qui se passe?
Vous avez employé les bons termes, Laure. Il y a en tout cas une augmentation du sentiment de discrimination à l'embauche en France. Et ça, c'est le premier élément que j'ai envie de porter à la réflexion. C'est effectivement, en 2001, 12% des candidats dans les processus de recrutement nous disent « j'ai été victime de discrimination », on est à 20% aujourd'hui. Et on peut se dire spontanément « la situation se dégrade, on ne fait pas ce qu'il faut ». Attention néanmoins, si on veut prendre de la hauteur et pas mettre les deux pieds dans le plat, on parle de sentiment de discrimination, d'accord ? Donc c'est le ressenti de la personne. Effectivement, on n'est pas dans les entretiens et donc difficile de juger est-ce que c'est la personne qui surinterprète ou qui rentre un acte du recruteur dans la catégorie de discrimination ou est-ce qu'elle existe vraiment ? Ce qui est quand même intéressant et qu'on peut noter, c'est que ce sentiment, il est très fort chez les jeunes. Alors que spontanément, on pourrait imaginer peut-être que, et on le sait, il y a une complexité pour les seniors de réintégrer le marché de l'emploi, et eux, en fait, ne se plaignent pas de discrimination. Donc on pense aussi que probablement que la jeune génération, culturelle. On laisse plus rien passer. Et donc, est-ce que les discriminations augmentent, ou en tout cas, est-ce que les attentes et les exigences des jeunes générations sont plus fortes vis-à-vis de l'entreprise et du recruteur en disant « attention, le moindre faux pas, je ne le laisserai pas passer.
Alors, il y a le moindre faux pas, mais il y a le fait de ne pas remettre en cause sa compétence et aussi de toujours considérer qu'on n'est pas pris pour des raisons qui n'ont rien à voir avec son CV.
Alors, là, on fait une interprétation de l'étude. On peut se poser la question de dire, est-ce que c'est la situation qui se dégrade ou dans quelle mesure aujourd'hui on va rapidement, pour un refus, l'assimiler à une discrimination alors que peut-être c'est simplement aussi qu'on n'a pas la compétence. Néanmoins, donc je pense qu'il faut prendre ce recul-là en se disant, il y a une exigence supplémentaire, les jeunes générations sont plus formées, plus attentives aux discriminations et donc elles les pointent plus facilement du doigt. Donc côté entreprise, on doit être très vigilant, ça c'est sûr. Maintenant, il y a des chiffres quand même qui ne mentent pas et auxquels on ne peut pas passer à côté. Les femmes, donc voilà, par rapport à la moyenne nationale, les femmes disent on est plus souvent, on ressent plus souvent ce sentiment de discrimination. Et il y a d'autres critères importants. Donc il y a le sexe, il y a la couleur de peau. Donc si vous n'êtes pas blanc aujourd'hui en France, vous êtes plus victime, vous avez plus souvent le sentiment d'être victime de discrimination. Il y a le handicap. Voilà, la couleur de peau, le handicap et le fait d'être une femme. Et on appelle ça des critères d'additionnalité, c'est-à-dire que au plus vous cumulez ces critères, au plus vous avez le sentiment d'être souvent, régulièrement victime de discrimination dans votre processus de recrutement.
Le moment de la discrimination, c'est le moment de l'entretien d'embauche, donc la discussion avec le recruteur. C'est un moment ultra sensible, évidemment, où on n'est effectivement pas sur le factuel. On peut être sur une discrimination même positive. Vous venez du même endroit que moi, on est pareil, on se ressemble. Il y a plein de critères qui jouent. On est vraiment sur le... Oui, le sentiment. Est-ce qu'aujourd'hui, on refuse ce moment un peu compliqué sur le plan émotionnel ?
Non, on le refuse pas.
On voudrait que ça aussi, ça soit factuel. On voudrait qu'il n'y ait plus d'entretien, qu'il n'y ait plus de décision sur le candidat. Le choix, c'est une discrimination, c'est ça que je veux vous dire.
C'est une très bonne remarque. Et d'ailleurs, ça soulève une question, c'est... dans l'étude, à la fin, on a demandé est-ce que la technologie peut être un moyen de réponse. Donc la technologie qui, par certains côtés, est plus factuelle que l'humain, qui mélange du subjectif et de l'objectif. Et il s'avère que, globalement, les candidats sont mitigés. Certains, 50% disent « je ne sais pas trop si c'est positif ou pas », et 25% contre, 25% pour. Donc en plus, en fait, on ne veut pas non plus remplacer l'humain par la technologie.
Mais
donc c'est là le paradigme. Et on ne veut pas être jugé.
Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, on est dans une situation pas simple. Le premier élément, c'est, et on le sait, c'est la formation dans le processus de... la vigilance des entreprises. Voilà, c'est important.
Mais elle monte, la vigilance des entreprises. On le voit ici, on interroge des DRH toute la semaine. Ils font attention désormais, ils essayent de former leurs managers. Alors, c'est peut-être pas encore suffisant, mais il y a une prise de conscience.
Il y a une prise de conscience et il y a des choses qui vont dans le bon sens. Par exemple, l'étude fait remonter que les discriminations ressenties sur le CV sont plutôt faibles par rapport à celles ressenties en entretien d'embauche. Donc, il y avait un débat il y a peut-être une dizaine d'années sur le CV anonyme. Mmh. A priori, en tout cas, le sentiment d'être discriminé se déplace de la première étape du processus à l'étape d'entretien physique. Donc, il y a quand même des initiatives qui vont dans le bon sens. Voilà. Maintenant, on n'est pas probablement au bout du chemin. On doit continuer d'essayer de trouver collectivement des solutions sur ces sujets. Parce que, quand vous avez 50% d'un échantillon, donc des répondants, qui sont des femmes d'origine étrangère, avec un nom, consonance étrangère, non blanche et en situation de handicap, qui disent à 60 ou 70% je suis victime de discrimination.
Ça dit quelque chose sur le rapport au travail quand même. Ça veut dire que la relation est compliquée.
La relation est clairement compliquée. Et il y a des frontières qui sont floues, il y a une porosité, et je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'il y a le côté discriminant sur l'aspect légal. Et après, on a distingué un autre groupe qu'on a classé dans l'irrespect. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas légaux, mais on ne sait pas très bien comment les classer.
Alors, c'est quoi ?
Et donc, c'est classé sous le nom de body shaming, donc c'est la honte du corps. Et donc, c'est-à-dire que si un recruteur vous fait une remarque sur votre tenue vestimentaire, aujourd'hui, est-ce que c'est considéré comme de la discrimination ou pas pour certains candidats ? Alors, nous, on l'a classé dans l'irrespect parce que ce n'est pas tout à fait illégal, d'accord ? Mais aujourd'hui, en tout cas, force est de constater que les jeunes générations, donc je veux dire moins de 30 ans, rentrent dans la catégorie irrespect le fait qu'un recruteur fasse une remarque à un candidat sur sa tenue, la jugeant non appropriée pour l'entretien ou pour effectuer le métier.
Voilà. Sauf que c'est compliqué si vous êtes sur un métier d'accueil ou...
C'est compliqué, mais en même temps, dans cette catégorie, on peut avoir, quand on déborde de la tenue, des remarques, par exemple, sur le poids. Et là, là où on pourrait peut-être accepter une remarque sur la tenue, quand elle dérive sur le poids d'une personne, on est sur son intégrité physique, et là on rentre dans la discrimination. Et ce qui est compliqué dans aussi de ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce qui est illégal et ce que les candidats considèrent comme étant de la discrimination et qu'ils n'acceptent plus d'entendre, à tort ou à raison, je ne suis pas là pour juger.
Ça veut quand même dire que le métier de recruteur devient très très compliqué.
Hyper compliqué, hyper compliqué. C'est factuel. Entre les contraintes légales, législatives, les attentes des candidats, entre les nouvelles générations, la transformation des métiers, aujourd'hui, il faut faire attention à tout. Bienvenue au 21e siècle.
Non, mais c'est là où on se dit finalement un robot, au moins, c'est ce qu'on disait juste avant, n'a pas ce genre de problème. Mais en même temps, il enlève l'humain. Ça veut dire que vous voulez plus d'humains, mais moins d'humains parce que l'humain fait des erreurs.
Exactement. Et c'est là, c'est le paradigme. Et j'ai pas la réponse entière sur le sujet. Mais effectivement, la technologie permettrait de dire on peut faire trier par un robot, par exemple, des CV. Exactement de la même façon, avec le même temps de lecture de chaque CV, le même prisme. Et pourtant, en tout cas en France, parce que c'est pas forcément la même chose à l'étranger, on n'a pas forcément la même approche, on n'est pas non plus hyper fan de cette option-là. Et donc, à tout garder, malgré tout, et peut-être pour encourager nos recruteurs, les candidats ils préfèrent encore pour le moment un recruteur imparfait avec de la technologie que de la technologie seule.
Eh bien, on n'a pas fini de faire des Happy Boulot le mag, ce qui est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Gonzague Lefèvre, d'être venu nous voir, cofondateur de Cleaver Connect. C'est la fin d'Happy Boulot le mag. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business.
BFM Business, Happy Boulot le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.